Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mardi. Nous sommes le 28 décembre. 980, c'est le nombre de cas de Covid-19 pour 100 000 habitants dans le Rhône. Un taux d'incidence inégalé depuis la deuxième vague début novembre 2020. Jean Castex et Olivier Véran ont annoncé hier de nouvelles mesures sanitaires pour répondre à la flambée des contaminations. Nous ferons le point dans cette édition. Le centre d'examen de santé de la CEPAM dans le 6e arrondissement va se transformer en centre de vaccination à compter du 10 janvier. En cette période de vacances, attention, l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance pluie-inondation. Attention aussi aux avalanches en Isère, Savoie et Haute-Savoie. 700 arbres plantés sur un flanc de montagne à Polémieux-au-Mont-d'Or, près du musée Ampère de l'électricité. La Poste et Codéo sont à l'origine de cette initiative. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Et puis lourdes sanctions pour le Paris FC et pour l'Olympique lyonnais après les incidents lors du match de Coupe de France. Les deux clubs sont d'ailleurs éliminés de la Coupe.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. 980, c'est donc le nombre de cas de Covid-19 pour 100 000 habitants dans le Rhône, d'après les derniers chiffres publiés par Santé publique France. Ce taux d'incidence concerne la semaine du 17 au 23 décembre et dépasse le précédent record qui était de 936 et qui datait de la deuxième vague début novembre 2020. Dans la métropole, le taux d'incidence a atteint 985 cas pour 100 000 habitants. Dans le Rhône, c'est chez les 20-39 ans actuellement que le virus circule le plus, avec plus de 1300 cas pour 100 000 habitants dans cette tranche d'âge. Le nouveau variant est passé de moins de 2% des cas à près de 15% dans le Rhône, de 0,3% à 7% dans la Loire et de 0,5% à plus de 5% dans le département voisin de l'Ain. Jean Castex et Olivier Véran ont donc annoncé de nouvelles mesures sanitaires pour répondre à cette flambée des contaminations. Pas de couvre-feu le 31 décembre. Jean Castex a cependant appelé au sens des responsabilités des Français lors du réveillon. Le gouvernement a également décidé de ne pas reporter la rentrée des classes. Ce sera bien lundi prochain. Les Français pourront désormais recevoir leur rappel de vaccin anti-Covid 3 mois après leur vaccination initiale. À partir du 15 janvier, si le projet de loi est voté, le pass vaccinal s'appliquera dans tous les lieux où le pass sanitaire s'applique aujourd'hui. Ainsi, la présentation d'un test négatif ne suffira plus. Le Premier ministre Jean Castex a en outre annoncé le retour des jauges lors des grands rassemblements. Elles seront fixées à 2000 personnes maximum en intérieur et 5000 en extérieur. Ces mesures s'appliqueront pour une durée de 3 semaines, y compris dans les enceintes sportives. La consommation dans les bars et cafés ne pourra plus s'effectuer debout, mais seulement de manière assise, et ce pour 3 semaines. Les concerts debout sont interdits également. La consommation de boissons, d'aliments, interdite également dans les cinémas, théâtres, équipements sportifs et transports collectifs, y compris longue distance. Le recours au télétravail sera rendu obligatoire à partir de la rentrée pour tous les salariés pour lesquels il est possible, à raison de 3 jours minimum par semaine et 4 jours quand cela est possible. Rue Baraban, dans le 6e arrondissement, le centre d'examen de santé de la CEPAM va se transformer en centre de vaccination à compter du 10 janvier pour une durée de 2 mois. Un centre qui sera ouvert à toutes les personnes de plus de 30 ans puisqu'il proposera seulement le vaccin Moderna. La prise de rendez-vous est déjà ouverte sur Doctolib. Une centaine de créneaux devraient être disponibles chaque jour avec une capacité de 450 injections par semaine sur le centre. Un accès sans rendez-vous est également prévu pour les personnes de plus de 65 ans.
Lyon Demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde.
L'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont en vigilance pluie-inondation jusqu'à ce soir. Attention aux avalanches en Isère, en Savoie et en Haute-Savoie. Vigilance jaune dans ces 3 derniers départements. L'annonce avait été faite en juillet dernier lors de l'inauguration des forêts d'Asie. Bien trop à l'étroit dans leur enclos, les 2 crocodiles devaient quitter le parc de la Tête d'Or pour rejoindre des ouèdes protégées. Mais quelques modalités restent à trouver. En attendant, les crocos sont toujours dans leur maison chauffée à Lyon. Un départ seulement différé, l'opération pourrait avoir lieu cet hiver.
Lyon Demain, programme durable.
700 arbres ont été plantés sur un flanc de montagne à Polémieux-au-Mont-d'Or, près du musée Ampère de l'électricité. Une friche qui deviendra donc à terme une forêt. La Poste et l'entreprise Codéo, installée à Curie-sur-Mont-d'Or, sont à l'origine de cette initiative. Les deux partenaires se connaissent bien. Codéo est un sous-traitant du groupe Postal qui répare et reconditionne ses appareils numériques, notamment les téléphones portables. C'est pour combler les 25 tonnes de dioxyde de carbone émises dans le cadre de ce partenariat que les deux sociétés ont décidé de cette plantation. François Amiot est cofondateur de Codéo.
On a réparé 29 000 smartphones en 3 ans. On a réemployé quasiment 50 000 smartphones. Mais malgré tout, il y avait des usages, déplacements de nos techniciens qu'on ne pouvait pas compenser. Donc pour ça, on a décidé de créer cette forêt pour être carbone free ou d'avoir une neutralité complète de tous nos actes. Aujourd'hui, c'est hyper facile d'acheter en ligne des certifications pour des forêts qui sont plantées de l'autre côté de la planète. Mais on voulait que c'est du sens. On voulait que ce soit... Et la problématique auquel on était confronté, c'est qu'en France, il y a très peu de certifications qui permettent de prouver que vous l'avez fait. Et donc, pour que c'est du sens, on voulait le faire idéalement localement. Et on a eu la chance d'être présenté par le biais de la Poste au CNPF, qui est quasiment la seule entité qui s'est certifiée ce type d'action en France.
Le CNPF, c'est le Centre National de la Propriété Forestière, l'établissement public en charge du développement de la gestion durable des forêts privées. Dans le cas présent, le plus compliqué était de trouver un terrain dans la métropole. Un propriétaire à Paulémieux s'est montré intéressé par la démarche. Olivier Glaise est coordinateur des projets carbone au CNPF.
Pour tout projet de boisement, on va regarder le sol, la nature, la texture, la structure. Il y a des essences qui sont adaptées à des terrains plutôt sableux, d'autres à des terrains plutôt argileux, voilà. Des terrains profonds, d'autres moins profonds. Et donc là, sur ce type de sol, l'érable sycomore, qui est l'essence qui a été choisie, était l'essence qui était vraiment adaptée, qui a quand même une croissance assez soutenue dans le jeune âge. On voit qu'il y a déjà des plants qui sont au-dessus de la gaine de protection contre le gibier et qui pourront être adaptés quand même à des étés qui peuvent être un petit peu secs. Voilà. Il y a quand même du confinement, on voit la montagne en face aussi, donc ça c'est des éléments qui font que l'érable devrait s'épanouir sur cette parcelle.
Et comment on calcule l'impact environnemental d'une forêt ?
Alors l'impact carbone, il est toujours calculé en comparant deux scénarios. Là typiquement, on va comparer le scénario où le propriétaire n'a pas l'aide de Codéo et va laisser s'embroussailler le terrain. Voilà. Donc on va modéliser un embroussaillement lent, naturel de la parcelle. Et après, il y a le projet, je dirais, carbone. C'est-à-dire, grâce à l'aide de Codéo, il y a un boisement. Et donc là, on va utiliser ce qu'on appelle, nous, en forêt, des tables de production qui nous indiquent une estimation du volume, donc du carbone, qu'on peut avoir au fur et à mesure du temps. Chaque 5 ans, qu'est-ce qui pourrait pousser en termes de volume. Et donc, la soustraction des deux, finalement, la comparaison entre les deux scénarios. Si j'ai pas l'aide d'un financeur, ça s'embroussaille. Si j'ai l'aide d'un financeur, je boise. Ça nous donne le gain en carbone. Et c'est ça, notamment dans le cadre du label bas carbone, qui peut être valorisé. Là, le gain à l'hectare, hein, si on le... Il faudrait que je regarde le calcul qui avait été fait à l'époque, parce qu'il y a moins d'un hectare. Mais le gain ramené à l'hectare sur des boisements feuillus, on va être entre, on va dire, 150 et 200 à peu près tonnes de CO2 par hectare. Voilà. Là, l'érable est quand même une essence qui a une croissance plus élevée que le chêne. Donc voilà, on sera probablement un peu plus proche des 180-200 tonnes de CO2 à l'hectare.
Le dernier rapport du GIEC prédit une accélération des effets dévastateurs du réchauffement climatique. De nombreux acteurs veulent peser dans la balance qui fera basculer l'économie dans la neutralité carbone. La Poste fait partie de ces entreprises. Au sein du groupe, on préfère d'ailleurs parler d'engagement plutôt que de politique RSE. Muriel Barnéou, directrice de l'engagement sociétal au sein du groupe La Poste.
Engagement pour nous, c'est quelque chose qui va au-delà de la conformité. C'est quelque chose qui embarque très largement l'entreprise. Et plus loin que ça, ses clients et ses partenaires. Et notre volonté, c'est d'impacter, mais vraiment d'impacter, le monde et notre écosystème. C'est pour ça qu'on parle d'engagement. On a choisi quelques causes, seulement quelques causes, justement parce qu'on veut toucher ce niveau d'intensité. C'est pas une lubie, on l'a déjà fait dans notre histoire, d'être impactant au point de transformer un écosystème, dans la voiture électrique par exemple, mais même avant ça, dans le chèque. Il faut savoir que c'est nous qui avons eu cette idée géniale de diffuser le produit hype du moment, il y a 103 ans, pour tous les gens. Et donc nous pensons que nous sommes au rendez-vous de ça, à la fois de notre histoire et de ce qui est devant nous et les défis qui sont devant nous collectivement. C'est pour ça qu'on parle d'engagement.
Alors c'est quoi comme engagement par exemple ? Quelques exemples concrets ?
Il y en a 4 en fait. C'est la résolution de 4, ou la contribution à la résolution de 4 grands problèmes. Transition numérique, transition démographique, transition territoriale et bien sûr transition écologique. Donc typiquement, par exemple, dans les transitions écologiques, nous sommes un très gros acteur de la neutralité carbone, très gros acteur de la réduction de l'impact carbone du transport de marchandises. Ça, vous savez, c'est un peu un angle mort aujourd'hui. On aime bien parce que c'est marketing, c'est sexy de parler de la voiture électrique pour le déplacement des gens. Mais le gros sujet qui est devant nous, et notamment dans nos villes, c'est le transport de marchandises. Parce que nos modes de consommation aujourd'hui génère des des croissances à double digit, hein, comme on dirait, sur ces univers. C'est du e-commerce, c'est du transport même plus lourd. Et nous, nous sommes les leaders aujourd'hui de cette logistique urbaine raisonnée qui, je le rappelle, tue prématurément 40 000 personnes en France du fait des problèmes de pollution, près de 500 000 en Europe. C'est un vrai sujet de politique publique que d'être capable de mettre à la route du transport de marchandises propre et respectueux, non seulement de la planète, mais des gens. Et nous sommes leaders de ça. C'est typiquement, voilà, un truc de game changer.
En quoi vous êtes exemplaire sur ce point de vue-là ?
D'abord, on a été les premiers à décider qu'on serait un jour carbone neutre. On l'est depuis 2019. On s'est mis en route en 2010. Nous sommes un acteur qui, quand vous faites de la neutralité carbone, vous devez mesurer. Nous sommes un acteur qui mesurons y compris les émissions de nos sous-traitants. Ça, c'est quelque chose, ce qu'on appelle le scope 3, qui est quelque chose d'assez rare. Nous avons des niveaux de réduction qui dépassent les 20% d'émissions depuis 2013. Et nous compensons volontairement. On est un des plus gros acteurs de la compensation volontaire des émissions résiduelles. Aujourd'hui, il faut que vous sachiez que c'est pratiquement plus de 45 millions d'euros qui ont été investis dans des projets comme ceux qu'on peut voir aujourd'hui dans la région Aura. Ces 45 millions ont permis de sauvegarder 350 000 hectares de forêt, de travailler à la sauvegarde de plus de 50 espèces en voie de disparition. Des millions de personnes accèdent à l'énergie, à une énergie électrique renouvelable grâce à ces solutions-là. Donc c'est ça très concrètement qui fait à la fois notre vision, notre position de pionnier et notre capacité à parler d'engagement.
D'où ce projet ici, donc à Polémieux.
Exactement. Alors ce projet, on a été là aussi pionnier, puisque lorsqu'on cherche des projets de compensation, ce que vous trouvez sur le marché beaucoup sont des projets de compensation très loin. Ils sont très bien au Kenya, partout dans le monde, dans la mangrove, etc. Mais nous voulions, parce que entreprise humaine, entreprise des territoires, ce qui nous fonde, nous, c'est notre ancrage territorial, c'est ça qui a fait notre raison d'être, dans notre raison de grandir. Et on cherchait à faire en sorte que des projets soient labellisés sur le territoire français. Ça coche bien sûr la case de la neutralité carbone de l'Europe à horizon 2050, celle de la France, puisqu'on s'est embarqué dans le même mouvement. Et donc, il nous fallait des projets labellisés, parce que ça, c'est pas des choses qui s'inventent comme ça, sur le territoire français. Et donc, on a été moteur, pionnier, là aussi, encore une fois, vous allez dire, bah oui, c'est vrai, du label bas carbone, et donc de projets locaux sur le territoire, avec l'aide de l'ONF et avec l'aide de la Caisse des dépôts.
Muriel Barnéou, directrice de l'engagement sociétal au sein du groupe La Poste, La Poste qui a adopté en 2021 le statut d'entreprise à mission, affirmant ainsi sa mission d'intérêt général. Introduite par la loi Pacte, cette qualification permet aux entreprises d'attester statutairement leurs engagements environnementaux et sociaux. Dans un premier temps, ce sont surtout des petites entreprises de moins de 50 salariés qui se sont engagées dans cette démarche. Mais les grands groupes sont de plus en plus nombreux à vouloir affirmer leur engagement social ou environnemental, en plus du but lucratif. La famille Bahadourian est en deuil. Arthur Bahadourian est décédé à 83 ans. C'était le frère aîné, celui à qui Djibril avait confié les responsabilités de l'entreprise. Ses obsèques ont eu lieu vendredi dernier en l'église arménienne Saint-Jacques à Lyon. Arthur vivait à Genève, où résident également ses deux fils Léo et Patrick, actionnaires de l'enseigne Grand Frais.
Lyon demain ? La radio sans pub.
La commission de discipline de la Fédération française de football a rendu son verdict et a décidé d'éliminer le Paris FC et l'Olympique lyonnais de la Coupe de France après les incidents survenus durant les 32e de finale au stade Charletti. La commission de discipline retient la responsabilité disciplinaire des deux clubs. Le Paris FC écope par ailleurs d'une suspension de 5 matchs fermes de son terrain, le stade Charletti, et d'une amende de 10 000 euros. Les sanctions visant l'Olympique lyonnais sont encore plus lourdes, avec la fermeture de l'espace visiteur à l'extérieur jusqu'à la fin de la saison 2021-2022, match de Ligue 1 inclus. Également la mise hors compétition de la Coupe de France, assortie du sursis à compter de l'édition 2022-2023. Une amende de 52 000 euros et le remboursement des frais liés à la réparation des sièges dégradés par les supporters à Charletti. Le Paris FC et l'Olympique Lyonnais ont tous deux matchs perdus par pénalité, ce qui signifie que Nice, qui devait affronter le vainqueur de ce duel, est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Le top 14, le Loup confirme son inefficacité hors de ses bases et ses difficultés, surtout à La Rochelle. Le Loup, presque inoffensif, a été copieusement dominé en mêlée, en possession et en occupation du terrain par des Rochelais victorieux au final 25-3. Et puis en basket, l'ASVEL, décimé par le Covid, s'incline également contre Limoges. Défaite des Villeurbanais 83-85. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, restez prudents, mais passez une excellente journée.